6h45 sur France Culture. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, le Nigeria.
Et oui, c'est officiel depuis hier soir. Le président sortant, Muhammadu Buhari, est réélu pour un second mandat de 4 ans à la tête du pays. Choix de la continuité donc avec 55,6% des suffrages. C'est aussi une avance de 4 millions de voix sur son principal concurrent, Atiku Abubakar, le candidat du Parti démocratique populaire qui conteste déjà. On en parle avec vous, Laurent Fourchard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes historien, directeur de recherche aux séries de Sciences Po et professeur au LAM de Bordeaux. Auteur récemment de ce livre « Trier, exclure et polisser, les vies urbaines en Afrique du Sud et au Nigeria ». Alors, juste un mot sur le climat qu'on pourrait dire du scrutin. Ces dernières années, il y avait eu beaucoup de violences post-électorales. Cette année, elles sont beaucoup moindres. 53 personnes tuées, le bilan le plus faible. Qu'est-ce que vous mettriez en avant? C'est ce bon climat ou le fait que l'opposition conteste déjà et veut déposer des recours?
Alors bon, climat relatif, effectivement, puisque 53 morts, c'est quand même 53 morts de trop, mais effectivement, il y en avait une centaine environ en 2015, peut-être 800 en 2011, et on était à ces chiffres-là dans les élections précédentes. Donc il y a une pacification relative des élections, en dépit de ce que dit l'opposition. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il y a quand même des poches de violence dans certains gouvernements locaux pendant ces élections.
La deuxième remarque sur le climat électoral, ou plutôt les conditions du vote, c'est qu'il y avait un véritable défi logistique. 84 millions d'électeurs, 120 000 bureaux de vote. De ce point de vue-là, on peut dire que c'est réussi ce pari.
Voilà, mais c'est ça qu'il faut aussi mettre en avant, c'est-à-dire que, et en face, ça, c'est une réussite assez semblable à celle de 2015, à savoir qu'il y a quand même des milliers de vérifications en fait au moment du vote qui sont assez importants. Hein. Il y a les listes électorales qui sont affichées, il faut venir avec sa carte électorale biométrique, il y a le moment du vote. Il y a du personnel qui encadre chaque élection, hein, chaque bureau de vote, il y a 120 000 bureaux de vote, il y a deux agents de la commission électorale, il y a deux agents pour chaque parti politique, il y a des agents du corps national du service volontaire, et puis il y a des forces de sécurité. Donc tout cela fait que en fait les élections se déroulent bien dans l'immense majorité des bureaux de vote. Quoi.
Oui, et avec des résultats finalement assez rapides à produire. Qu'est-ce que vous pensez des diverses accusations de fraude qu'il y a eu? Enfin, quand je dis diverses, il y en a une partie qui vient de l'opposition qui dénonçait dès lundi une manipulation. Il y en a une autre partie qui vient du parti au pouvoir, lui qui dénonçait des fraudes dans un état, l'état de Rivers. Et puis une partie qui vient de la société civile qui évoquait, elle, je cite, des cartes d'électeurs davantage perçues comme une carte d'identité pas chère plutôt qu'un moyen de voter. Ça fait quand même pas mal de soupçons, non?
Alors, pas mal de soupçons, mais pour l'instant, ils sont pas vraiment fondés. Et puis, les accusations réciproques des deux partis, des deux principaux partis du pays, sont finalement assez communes. Quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, dans chaque bureau de vote, quand on vient avec sa carte biométrique, c'est vérifié donc par les agents de la commission électorale. Et quand il y a un bug, en fait, la commission électorale appelle des spécialistes qui viennent débloquer la machine. Donc ça arrivait dans plusieurs bureaux de vote, mais il y a vraiment une vérification de la validité de la carte. Il y a d'ailleurs un certain nombre de cartes qui n'ont pas été distribuées pour des raisons logistiques, mais c'est plus pour des raisons logistiques que pour des raisons de délibérées de trucage électoral. Il faut quand même rappeler aussi que dans chaque État, c'est souvent en fait une personnalité universitaire importante. Généralement, c'est le vice-chancellor, c'est le doyen ou le vice-doyen de l'université, une grande université de l'État qui vient annoncer les résultats à Abuja, en quelque sorte pour garantir un peu la fiabilité des résultats.
Oui. Et voilà. Donc pas de doute sur l'intégrité du scrutin, on pourrait dire, alors qu'on en vienne aux chiffres. Par contre, un premier chiffre qui est vraiment peut-être étonnant, c'est quand même une participation assez faible, hein, 32% seulement. C'est même la plus faible depuis ces dernières années. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors c'est difficile à interpréter, hein. Il y a plusieurs choses, peut-être déjà le fait que la majorité des électeurs ont moins de 35 ans et que en fait les élus et en tout cas les principaux candidats ont plus de 70, donc il y a peut-être un gap générationnel qui est important, mais c'est pas entièrement nouveau, bon, mais l'abstention monte en tout cas par rapport à 2015, ouais, c'est plutôt à 50, 54%. Mmh. c'est une première chose. Peut-être qu'il y a le discrédit aussi de la classe politique. Hein. Là, on est dans un schéma bien connu en France, en fait, d'une certaine manière. Il y a une alternance donc, l'année dernière, en 2015, et comme les performances de nouveaux partis n'ont pas été excellentes, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, il y a peut-être une désaffection pour la classe politique et sa capacité à changer les choses au Nigeria.
Oui.
Ça doit jouer. Et peut-être, dans certains cas, effectivement, un sentiment d'insécurité pour aller voter, hein, dans certains cas, ça joue certainement, ainsi que le fait de revenir dans son état, si par exemple on n'a pas changé sa carte électorale biométrique, il faut revenir voter dans son état, donc ça peut décourager un certain nombre d'électeurs, mais c'est comment ça fonctionne de la même manière.
Oui, et puis il faut dire que le scrutin avait été reporté d'une semaine aussi, peut-être que des électeurs s'étaient déplacés il y a une semaine, qu'ils n'ont pu se déplacer la semaine suivante, possibilité aussi.
Tout à fait, oui. Tout à fait possible. Effectivement, il y avait une grande déception et puis même de la colère contre le report de cette élection. Alors, pas tant parce que c'est très original, ça, hein, c'est arrivé dans le passé, mais surtout parce que ce report a été fait quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Il y a même des bureaux de vote qui ont... des électeurs qui se sont rendus au bureau de vote le matin en découvrant finalement que l'élection aurait lieu la semaine suivante. Donc,
ouais.
Effectivement, c'est assez décourageant pour voter.
Donc encore une influence des questions logistiques. Sur l'adhésion, par contre, les 55,6% quand même à Mouamadou Bouhari, c'est assez étonnant. C'est pas un plébiscite, mais quand même une bonne validation de sa candidature. Lui qui était quand même relativement contesté pour son bilan, on va dire, vous l'avez dit, septuagénaire, alors que la moitié du corps électoral à moins de 35 ans, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, bonne performance, effectivement. Bon, il a à peu près le même nombre d'électeurs qu'en 2015, hein, 15 millions d'électeurs comme en 2015. Mais il n'a pas progressé non plus et le parti d'opposition n'a pas progressé davantage. Donc, il y a davantage d'abstention et c'est ça la différence avec 2015. Le président sortant, en fait, rafle la mise dans les États qui lui sont relativement fidèles. En gros, c'est le Nord. Hein. Le Nord a voté vraiment majoritairement, très majoritairement, même des fois à 70-80% pour Bouhari. Alors que le Sud, bon, traditionnellement, qui vote dans l'opposition, a également voté dans l'opposition. Donc il y a deux zones, en fait, qui sont un peu plus mixtes, on va dire. C'est... les États donc qu'on appelle la Middle Belt, les États centraux en fait du Nigeria, où là c'est partagé, avec des États qui changent de majorité, on ne sait pas encore pourquoi, dans quatre cas. Et puis dans le sud-ouest, des États qui passent à l'opposition, qui ont des résultats assez étonnants, dans l'État d'Ondo et l'État d'Oyo, qui sont aux mains de la majorité présidentielle depuis longtemps, qui passent dans l'opposition, et là qui trahissent peut-être une certaine désaffection pour le président sortant, en quelque sorte. Même à Lagos, qui est un bastion en fait du parti présidentiel, Bouhari l'a remporté vraiment par haut la main, quoi. Hein. Enfin, donc là, ça pose question sur effectivement le fait que, je ne sais pas, un certain nombre d'électeurs dans ces États du Sud-Ouest trouvent le bilan économique notamment du président probablement catastrophique.
Oui, donc un léger frémissement dans la carte électorale, on va pouvoir voir ça dans les prochains mois, les prochaines années, ce que ça veut dire. Alors justement, sur les principaux chantiers, vous avez parlé de l'économie, ce qui est sans doute un des principaux, hein, avec un chômage qui est quand même endémique, je crois que c'est 55% pour les 15-35 ans. La question de la croissance, également la question de la sécurité avec Boko Haram toujours présent, et puis la corruption, lequel est le principal de ces chantiers, j'en ai cité que trois, il y en a peut-être d'autres.
Ah oui, ben en fait, tous ces chantiers vont ensemble d'une certaine manière. Donc il avait été réélu, en 2015 sur la question de la sécurité, de la lutte contre la corruption et de la relance et de la relance économique. En termes de sécurité, le bilan est mitigé. Boko Haram a effectivement reculé dans le nord-est, mais il y a un conflit beaucoup plus important qui a émergé donc dans ces états de la Middle Belt. Conflit qu'il n'a pas réglé. Bon, c'est aussi un des conflits que les gouverneurs doivent régler dans leur état. Au niveau de la croissance, donc elle était en berne en 2016, elle a un peu repris depuis quelques temps, mais En fait, il y a un chômage de masse, il y a une baisse des allocations fédérales aux États et aux gouvernements locaux, une augmentation de la fiscalité locale qui est très fortement ressentie par les populations et qui pèse vraiment sur les populations, sur le moral des gens, une inflation aussi importante. Donc voilà, il y a vraiment des problèmes économiques majeurs et c'est certainement ça en fait la priorité du gouvernement, relancer l'économie, être moins dépendant du pétrole, mais ça c'est une question... Il y a 40 ans au Nigeria, la diversification de l'économie.
En tout cas, c'est ce qu'avait affirmé Bouhari, que le secteur non pétrolier avait bondi de 82% en 2018. On suivra ça. Merci pour vos explications, en tout cas. Puis on verra aussi les élections des gouverneurs le 9 mars. Merci pour ce matin, Laurent Fourchard, historien, directeur de recherche au CERIS Sciences Po. Et on renverra à votre livre « Trier, exclure et policer, vie urbaine en Afrique du Sud et au Nigeria ».